Prends le Saint-Livre, mes frères et sœurs, dans le psaume 63. Ce grand livre, ce beau livre. Car si nous sommes ici ce matin, c'est bien grâce à ce livre. Le Seigneur, la parole écrite. Psaume 63, un psaume qui a été écrit lorsque David était dans le désert. Hier, je lisais un Samuel et deux Samuel. Et je peux vous dire que David a souvent été dans le désert. Mais regardez comment il est, dans quel état d'esprit il est. Qu'est-ce qu'il fait dans le désert? Parce que le problème, il est là, au fait. Qu'est-ce que je fais quand je traverse un moment difficile? Alors regardons ce qu'il a fait. Vous me direz s'il a raison, s'il a eu raison de le faire. Psaume 63, verset 1er. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Il a bien fait, vous croyez? Oui, moi je pense. « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbre tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. » Oui, il a bien fait de le chercher, mes frères et sœurs. Mon âme sera rassasiée. Dans le livre des Actes, au chapitre 19, c'est une situation qui s'est produite lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse. Paul arrive à Éphèse, il va poser une question. D'ailleurs, ce matin, il y aura beaucoup de questions. Je vous demande peut-être même d'en noter quelques-unes pour vous aider à y répondre. La Sainte-Seine a été présentée sous forme de questions. Ce matin, il y aura plusieurs questions. Je vous encourage peut-être à noter quelques-unes pour que vous ayez l'honnêteté, lorsque vous retrouverez seul devant Dieu, eh bien, de pouvoir y répondre. Parce que là, répondre succinctement, c'est trop rapide. Acte 19, verset 1er au verset 7. Acte 19, chapitre, verset 1er, pardon. « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir couru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Dont le titre de ma prédication ce matin est une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Aujourd'hui, notre monde est caractérisé par l'apostasie, par l'impiété, et même dans l'Église. Peut-être pas à Saint-Anne, heureusement, mais dans beaucoup d'églises en général, ce qui caractérise la fin des temps, c'est écrit, c'est l'apparence de la piété, que les chrétiens aimeront le plaisir plus que Dieu. Vous connaissez ces textes, je les cite souvent. Les prophéties qui parlent de la fin des temps indiquent que l'Église sera en difficulté lorsque Jésus reviendra la chercher. D'ailleurs, Jonathan, qui a présenté le chant, a rappelé cette parole de Jésus. « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et comme nous sommes dans un monde qui vit dans la difficulté, que la colère de Dieu s'approche, les hommes ne se soucient pas de connaître Dieu. Est-ce que ce matin, un des aspects de cette démarche de venir consiste à mieux connaître le Seigneur? Est-ce que pour vous c'est important? Est-ce que vous dites, mais oui, je suis là, mais c'est certain. Je suis là pour louer, je suis là pour adorer, je suis là pour prendre la Sainte-Seine, pour apporter mon offrande. Oui, je veux participer, je veux contribuer au culte, je ne suis pas un spectateur comme ça, indifférent. Mais je veux également connaître Dieu. Dieu a permis que l'apôtre Paul se retrouve avec ces 12 hommes. Et cette question que Paul a posée, qu'il a posée à ses 12 disciples, c'était des chrétiens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Je crois que c'est une question que l'on peut poser aujourd'hui dans toutes les églises, même les assemblées de Dieu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous allez me dire, mais monsieur Gaulle, ça va? Vous allez bien? Alors écoutez bien cette prédication. Nous avons vu David, j'ai pris ce texte, j'aurais pu en prendre d'autres, il est dans le désert, il connaît Dieu, il sait que c'est une étape, il sait que ça ne doit pas durer, et il sait très bien que s'il cherche Dieu dans le désert, il pourra expérimenter ce qu'il a écrit dans le psaume 23, ou ce qu'il a écrit dans le psaume que nous avons lu, « Mon âme sera rassasiée ». S'il y a bien une chose que Dieu veut, c'est que nous soyons rassasiés. Est-ce que vraiment ce matin, mes frères et sœurs, vous réalisez que dans les lieux célestes, à proximité de main, il y a un fleuve d'eau vive? Est-ce que vous le croyez, que Dieu est capable, pendant ce culte, peut-être on aura un moment de prière, parce que je pense que le temps ne nous permettra, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a un fleuve où Dieu désaltère tous ses enfants? Vous le croyez, tous ces textes sur les fleuves, d'ailleurs la Bible commence avec un fleuve et l'Apocalypse se termine avec un fleuve. Il y a un fleuve qui parcourt toute l'Écriture, il y a des fleuves d'eau vive. Alors d'où cela vient-il? Alors je sais qu'il y a des combats, je le sais, j'en ai assez vécu, moi aussi je me suis retrouvé dans le désert, moi aussi j'ai tourné en rond, moi aussi j'ai galéré, etc. Mais d'où cela vient-il quand même? Que tant de chrétiens finissent par douter de cette faveur. Il y a un fleuve d'eau vive dans lequel Dieu veut que nous soyons immergés. Un fleuve de grâce. Est-ce que ce matin Dieu peut faire grâce? Oui. Est-ce que ce matin quelqu'un a perdu la paix? Ça peut arriver. Une bêtise, une mauvaise attitude. On a tous eu des mauvaises réactions. Ne jouons pas les petits malins. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de paix. Est-ce qu'il y a un fleuve de paix? Oui. Il y a un fleuve de paix. Est-ce qu'il y a un fleuve de repos, un fleuve de miséricorde? Oui, et Dieu veut nous le rappeler ce matin, que lorsqu'il est là, il est là pour bénir. Dieu sait, je sais qu'il y a des combats, je le sais. Tous les chrétiens qui se consacrent à Dieu savent qu'il y a un combat. Vous le savez. Des fois, vous prenez le baptême, le lendemain, vous avez vous avez de suite pris conscience qu'il y a un combat spirituel. Il y a une confrontation spirituelle, c'est clair. Je ne vais pas parler de ça ce matin, mais c'est vrai. Mais Dieu sait ce que vous avez besoin. Vous croyez que peut-être vous avez besoin de ceci ou de cela. Un jeune célibataire dit, moi, mon besoin le plus urgent, c'est d'avoir une compagne. Mais vous inquiétez pas. Est-ce que Dieu sait la compagne qu'il vous faut ou le compagnon qu'il vous faut? Mais bien sûr. Vous croyez que Dieu peut vous l'amener ici, dans sa maison? Est-ce que Dieu aurait le pouvoir d'amener votre futur conjoint ici? Les jeunes, est-ce que vous le croyez? Pas ceux qui sont mariés. Ceux qui sont mariés, écoutez-moi bien, gardez celui que vous avez. Mais mes frères et sœurs, Dieu vous dit ce matin, au travers de ma prédication, peut-être qu'elle sera maladroite, peut-être, mais une chose est sûre, il y a un fleuve. Le monde est en train d'essayer de mondaniser l'Église. Vous le savez. Il y a des chrétiens qui n'y voient rien, tellement leur expérience de repentance a été superficielle, tellement leur conversion a été légère. Cela fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne voient rien du tout. Ils sont là, ils sont chrétiens, mais en fin de compte, ils le savent, sans trop savoir. Enfin, vous savez qu'il y a des chrétiens comme ça. Et moi, j'ai pas envie que dans l'assemblée où nous sommes, il y ait de la légèreté. Moi, je crois que Dieu veut qu'il y ait de la profondeur. À quoi reconnaît-on un véritable chrétien? Tiens donc, à sa dénomination? Celui qui est dans les églises de Pentecôte est supérieur à celui qui est dans les églises évangéliques. Celui qui est dans les églises évangéliques est supérieur à celui qui sont dans l'église protestante évangélique. Et ainsi de suite jusqu'à l'église qui est le plus loin de Dieu. À quoi reconnaît-on un véritable disciple? Moi je vais vous le dire. On reconnaît un véritable disciple à la soif qu'il a de Dieu. Écoutez-moi bien, réfléchissez-y. Ce ne sont pas des questions que je pose à la légère, ce sont des questions que je pose pour que nous puissions tous expérimenter ou réexpérimenter qu'il y a un fleuve, ce fleuve que le diable ne veut pas que nous voyons, comme Agar qui était à côté d'un puits dans le désert et qui ne l'avait pas vu. Il a fallu que l'ange lui dise « mais il y a un puits à côté ». Et beaucoup de chrétiens, même s'ils sont là dans la présence de Dieu, s'ils aiment le Seigneur, s'ils aiment la parole, prouvent par leur sécheresse, par leur légèreté, par leur vie superficielle, qu'ils ne se plongent pas dans ce fleuve. Et il y en a un, bien sûr, qui est intéressé à cela. Mais la soif de Dieu caractérise vraiment un véritable disciple. Les disciples d'Éphèse n'ont pas dit à l'apôtre Paul « mais t'inquiète, on est baptisés, on est des disciples ». Ils ont été sérieux lorsque Paul leur a posé cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Comme quoi on peut partir de bas, mais c'était des hommes qui avaient soif de Dieu. Ils avaient soif de Dieu. Un véritable chrétien se reconnaît au fait qu'il veut être plus près de Dieu. Je ne sais pas comment vous avez chanté « J'ai soif de ta présence ». C'était celui-là qu'on a chanté. Moi, j'ai soif de ta présence. Je ne sais pas comment nous l'avons chanté, vous l'avez chanté. Mais comment chantons-nous nos cantiques? Parce qu'ils sont beaux, ces cantiques. Ils sont beaux, les cantiques qu'on a chantés ce matin. Ils étaient beaux, non? Oui. Jésus, tu es précieux. Les cieux proclament, tout ça c'est dans la Bible. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. C'est écrit. Comment chantons-nous « J'ai soif de ta présence » Qu'est-ce que ça veut dire ce matin, là, réellement? Je ne parle pas trop dans le cadre du culte, mais c'est peut-être ce soir. Est-ce que ce soir, dans votre maison, dans votre bureau, dans votre chambre, vous pourrez dire « Oui, Seigneur, j'ai soif de ta présence ». La véritable piété pourrait se définir par cette affaire « J'ai soif de Dieu ». Pas « J'avais soif de Dieu dans le passé ». J'ai soif de Dieu aujourd'hui, cette soif, elle doit s'entretenir. C'est David qui dit dans le psaume 27, vous pouvez le noter, « Je demande à l'Éternel une chose ». Pourtant, c'était quelqu'un, David. Il a été roi, il a été... Enfin, David, il a eu plusieurs cordes à son arc, croyez-moi. Et David disait « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur ». Est-ce que vous vous rendez compte, on l'a en cantique, presque tous les changes pour ceux qui débutent dans la foi sont tirés de l'évangile, de la parole de Dieu. Et il y a des comportements quand même qui devraient nous faire réfléchir, les nôtres, et puis dans l'église, parfois des comportements qui révèlent qu'il y a beaucoup de légèreté. Quelqu'un peut-il être indifférent, insensible aux choses de Dieu? Et en même temps être rempli du Saint-Esprit? Soyons honnêtes, je ne sais pas si je la formule bien, mais quand même. Est-ce que je peux être indifférent au salut des âmes? Indifférent à l'Église? Me ficher un peu pas mal de ceci ou de cela? Et en même temps dire que je suis rempli du Saint-Esprit? Moi je crois que non. Je crois que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il n'est pas indifférent à l'œuvre de Dieu. Il est intéressé par l'œuvre de Dieu. Oui ou non? Il a à cœur les âmes. Un, ça sera peut-être davantage l'évangélisation. L'autre, ça sera peut-être l'exhortation. L'autre, l'enseignement, etc. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, moi je crois vraiment qu'il est intéressé par l'œuvre de Dieu. Est-ce que ça vous intéresse l'œuvre de Dieu ou est-ce que ça vous intéresse juste que le conseil d'administration soit super intéressé par l'œuvre de Dieu pour qu'il ne fasse pas de bêtises avec les choix qu'il doit faire? C'est important ça. Il faut répondre, mes frères et sœurs, parce qu'on n'est pas là pour faire les malins, on est là devant Dieu. Dieu a des choses à nous dire. Les 12, je ne sais pas s'ils ont regardé l'apôtre Paul en disant « mais qu'est-ce qu'il nous raconte ?» Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est pas compliqué. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vous enseignera et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voyez la délicatesse de notre Père. Il vous conduira. Est-ce que ça fait partie de vos prières régulières? Seigneur, conduis-moi.
Conduis-moi, tu m'as placé à Toulouse, je viens d'Afrique ou je viens de ce pays-ci. Tu me conduis, Seigneur. Il vous conduira. Si le Saint-Esprit habite dans votre esprit, votre vie sera équilibrée. On en parlait mardi. À quoi on reconnaît un chrétien en bonne santé? Eh bien, qui a un esprit en bonne santé? Eh bien, par exemple, par rapport au péché, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Parce que quand on est confronté au péché, eh bien, on est brisé. Si le péché ne vous fait plus rien, c'est que votre esprit est malade. Écoutez-moi bien, je ne vais pas vous le dire d'autre façon. Et c'est pour ça que la Bible dit que ce qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Et en même temps, on reconnaît le même esprit dira, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Donc, l'esprit en bonne santé se réjouit parce que il est sauvé, et en même temps, cette même personne, vite, va être brisée lorsqu'elle a commis une erreur. Si vous commettez un péché et que ça ne vous fait plus rien, vous êtes malade. Votre âme est malade. Le but de cet enseignement, de cette exhortation, c'est que nous comprenions tous que Dieu guérit, pas que le corps, Dieu guérit l'esprit, qu'il y a un fleuve et que ces moments doivent permettre, vous et moi, de nous rapprocher un petit peu plus de ce fleuve. L'épreuve nous aurait-elle conduit dans un désert? Moi, franchement, quand je lis David en ce moment, mais c'est de la folie le nombre de fois où il est obligé de se retrouver dans le désert. Je peux vous dire que ça valait la peine. En tous les cas pour nous, ça valait la peine. Parce que je sais que j'exhorte l'Église, mais je voudrais ce matin peut-être être un petit peu plus précis dans votre attitude et dans votre réaction, pas pendant le culte. Le culte, c'est archi facile d'être spirituel pendant le culte. Mais mes frères et sœurs, est-ce que ce que je vis, ce que j'entends, ce que je comprends, ce que je réalise, me conduit vers ce fleuve? Est-ce que j'ai vraiment envie de me retrouver dans ce fleuve? Ça vous est jamais arrivé d'avoir envie de vous jeter dans un fleuve? Moi, je me suis perdu en brousse quand je faisais une manœuvre, j'y pense maintenant. J'étais en Outre-mer, je m'étais perdu, ça m'a valu 15 jours de prison. Mais je m'étais perdu volontairement parce que j'en avais marre, j'étais pas un chrétien. Et j'ai entendu, il y avait des moustiques partout en plus, je me suis jeté dans un fleuve. Vous pouvez pas vous imaginer rien que d'y penser maintenant, comment ça me rafraîchit. Vous n'avez pas besoin de vous jeter dans ce fleuve d'eau vive? Ce fleuve qui existe vraiment, qui est beaucoup plus rafraîchissant qu'un fleuve matériel. Mes frères et sœurs, est-ce que j'ai compris? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Parce que nous, on ne les a pas expliquées, parce que vous ne les avez pas méditées. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai compris l'importance de ce rafraîchissement? Est-ce que vous y croyez au fait à ce rafraîchissement? Quand Jésus dit, il te conduira près des eaux paisibles, si quelqu'un a soif, des fleuves d'eau vive couleront. Est-ce que c'est vrai? Il vous conduira dans toute la vérité. C'est une vérité et le diable fera tout pour que vous le remettiez en question. Alors c'est vrai que ces rafraîchissements, alors là c'est peut-être le côté le plus utile pour certains. Ça arrive que pour recommencer à ce rafraîchissement, cela nécessite une véritable repentance. Pierre dit aux chrétiens de Jérusalem, mais repentez-vous et convertissez-vous. Il parle à des religieux, ce n'est pas à des impies. Nous, quand on prêche maintenant, les gens ne connaissent rien, ils ne connaissent même pas Jésus. Mais là, il prêchait à des gens religieux. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Bon, mais ça, je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est réglé. Mais il ajoute, et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Peut-être que nos péchés sont effacés, je le crois. Si vous vous êtes levé pour prendre la Sainte-Cène, je pense qu'il en est ainsi. Mais mes frères et sœurs, béni soit Dieu pour le pardon de nos péchés. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin et de connaître ces temps de rafraîchissement? Où en suis-je de cette vie de l'Esprit? Ce que j'en suis. Parce que c'est mon devoir de vous aider. Je veille sur vos âmes dont je devrais rendre compte. Alors on va avoir deux ou trois versets, mes frères et sœurs, pour que nous puissions nous situer par rapport à cette affaire. Dans Jérémie, il y a un verset, moi, qui m'a fait mais qui m'a fait réfléchir. J'y croyais pas sur le coup, enfin, j'y croyais pas. Tellement c'est grave, et pourtant c'est facile à comprendre quand maintenant. Jérémie au chapitre 2, Dieu... On voit de la tristesse dans le cœur du Seigneur. Parfois, on ne perçoit pas les émotions, enfin les sentiments, je ne sais pas comment dire, du cœur du Seigneur. On peut en parler puisque Dieu en parle. Jérémie chapitre 2, verset 13. Ce verset, je vous demande, mes frères et sœurs, parce que je me sens poussé à faire en sorte que peut-être vous le méditiez toute la semaine, pour certains en tous les cas. Dans vos cultes personnels, mettez un marque-page et peut-être que le Saint-Esprit va vous éclairer au travers de ce verset. Regardez bien, Jérémie chapitre 2, verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. » Pas un péché, un double péché. Regardez le reproche que Dieu fait à son peuple. « Ils m'ont abandonné. Moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Vous ne trouvez pas que c'est un peu fort? Vous imaginez un homme qui aurait dans son champ une source d'eau vive qui jaillit continuellement et qui se met à la boucher pour se creuser une citerne qui ne retient pas l'eau? Qu'est-ce que vous diriez de cet homme? Sérieusement, vous le verriez de loin avec vos jumelles, il ferme la source qui jaillit et il se fait une citerne, un trou, et en espérant que la pluie va la remplir et que ça s'écoule toujours. Qu'est-ce que vous diriez de cet homme? Vous diriez, cet homme, il est complètement insensé. Mais quand même, c'est une image très 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 facile à comprendre. Le Seigneur l'a permis parce que le Seigneur ne veut pas nous enfoncer, il veut vraiment nous éclairer. Quel drame! Quel drame! Je le répète, quel drame dans l'Église. Lorsque des chrétiens refusent l'abondance de la grâce, ses rafraîchissements, ses eaux fraîches, et qui acceptent les substituts du diable, ou du monde, allez, pour être plus cool. Sérieusement, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Soyons archi honnêtes. On est devant Dieu. Je sais que plusieurs vous priez la semaine. Seigneur, inspire notre serviteur. Inspire notre pasteur. Oui ou non? Vous le faites. On est devant Dieu. Mais là, nous avons une image terrible de la folie qu'un chrétien peut produire en arriver à commettre c'est un double péché. C'est clair. C'est clair. Et ce texte-là, on le voit souvent. Regardez un peu avant dans 1 Samuel. Un peu beaucoup même. Regardez dans 1 Samuel, au chapitre 8. Ce sont des choses qui doivent nous interpeller parce que, mes frères et sœurs, Dieu a un fleuve. Alléluia. Le fleuve du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, elle est réelle. Croyez-moi, 1 Samuel chapitre 8, verset 8. Ça s'est passé à la fin de la vie de Samuel. Il était vieux. Et regardez au verset 6, on va lire que ce qui nous intéresse. Mais notez ces textes pour que nous comprenions bien que c'est un double péché vraiment. 1 Samuel 8, verset 6. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Regardons le verset 10 à 18. Regardez bien les conséquences d'abandonner la source d'eau vive. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur des chars, sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de milliers, des chefs de cinquante, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et à l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et il la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Voilà les conséquences. Voyez, il prendra la dîme par exemple. Ils n'étaient pas d'accord pour donner la dîme à Dieu, mais là ils étaient d'accord pour la donner au roi. Ils refusaient que Dieu règne sur eux. C'était le peuple de Dieu. Ils voulaient un roi, ils voulaient être comme le monde. Il y a des chrétiens qui veulent être comme le monde. D'ailleurs, des fois, on le dit, il faut être comme le monde. Il faut avoir les mêmes activités que le monde. Comme ça, quand les gens viennent dans nos églises, ils trouvent qu'on est dans le vent, on est archi-moderne. Les gens, ils n'ont pas besoin d'être qu'on soit archi-moderne. Les gens, ils ont besoin de voir des gens remplis du Saint-Esprit. Ils ont besoin de voir des gens qui prêchent la croix. Ils ont besoin de voir Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Nous sommes des lettres, lui. Il refusait, vous l'avez lu, il refusait que Dieu règne. Il refusait d'obéir à Dieu. Et ils étaient prêts à obéir à un roi. Mais il y a des chrétiens, vous savez, ils obéiront pas à Dieu, ils obéiront au patron, ils obéiront à certaines choses, et ils seront prêts à même rentrer dans un syndicat pour que les choses changent. Moi, je vous demande de réfléchir avant de faire ça. Ils refusaient les choses à Dieu et ils voulaient les donner à un roi. Regardez jusqu'où ça peut aller, un peu avant, dans Juges. Mais regardez jusque ça, où ça va. Là, c'est le top, là. Juges, chapitre 2, verset 16. Vous savez, ce sont des textes qui nous permettent de comprendre ce que ça veut vraiment dire. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Juges, chapitre 2, verset 16. L'Éternel suscita des juges, afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux. C'est le peuple de Dieu. Se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père. Et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. On va lire le verset 19. Mais, regardez bien ce verset, frères et sœurs, sérieusement. À la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, et allaient après d'autres dieux pour les servir, se prosterner devant eux. Regardez bien. Et ils persévéraient. Tenez-vous bien, mes frères et sœurs. Ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Ils persévéraient dans l'endurcissement. Ils persévéraient dans la mauvaise conduite. Ce que Dieu voulait pour eux, ils l'ont fait exactement à l'envers. Est-ce que Dieu veut que l'on persévère ? Oui, mais pas comme ça. Et il y a des gens, ils persévèrent dans leur mauvaise conduite. Ils persévèrent dans leur endurcissement. On prie pour que les gens changent, vous savez. Mais il y a des gens qui ont atteint un point de non-retour. Ils ne veulent pas changer. Ils persévèrent dans l'endurcissement. Moi, hier, en lisant ce verset, il y avait un pasteur qui me téléphonait pour me demander ce que je pensais de la persévérance. J'ai dit, mais je vais vous en parler de la persévérance. Justement, j'étais en train de lire ce verset. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Regardez, Juges chapitre 10. On pourrait en lire d'autres. Il y en a plein, hélas, de textes comme ça. Et s'ils y sont, c'est pour que l'on réfléchisse, mes frères et sœurs. Juges chapitre 10, verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Vous lirez la suite, bien sûr. Mais ce n'est pas que dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on le retrouve. Peut-être que ce serait bien de voir comment ça se passera après l'enlèvement de l'Église. Ça va être comme ça. Les gens, regardez avec moi Apocalypse, chapitre 9, verset 20. Mes frères et sœurs, ça va être terrible après l'enlèvement de l'Église. Parce que les gens persévéreront dans l'impiété, ils persévéreront dans l'endurcissement, ils persévéreront dans la dureté. Et nous devons faire attention, parce que si nous avons le Saint-Esprit, au contraire, nous marcherons dans la douceur et dans la paix. Apocalypse 9, verset 20, les conséquences de choses terribles. Là, dans ce fléau, c'est la sixième trompette en vérité, un tiers des hommes va mourir. Je ne suis pas sûr que les gens captent ce que ça représente sur la terre. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura une guerre terrible. Pour tuer un tiers des hommes en même temps, il faut que vraiment il y ait quelque chose de terrible. Regardez la réaction. Les autres hommes, verset 20, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons. les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils croient pas en Dieu, mais ils croient aux idoles. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Apocalypse 13, verset 3. Mes frères et sœurs, c'est grave de ne pas avoir soif du Saint-Esprit. Apocalypse 13, versets 3 à 8. Regardez bien, franchement. C'est ce qui se passera. Si vous n'êtes pas enlevé, vous vérifierez ces choses. Vous les verrez, elles se passeront sur la terre. Apocalypse 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration. Regardez bien. Qui c'est qui devait être admiré normalement? Qui c'est qui est admirable? Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. La terre entière. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête? Oui, il n'y a pas un verset dans les psaumes où dit, qui est semblable à Dieu? Oui, là, ça on ne le dit pas, les gens ne le disent pas. Vous aussi, je sais, heureusement. Mais là, oui, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel, etc., etc. Les gens qui refusent d'obéir à Jésus-Christ adoreront la bête. C'est comme ça que c'est écrit. Vous pouvez le dire comme vous voulez. Ce que les gens refuseront à Jésus-Christ, ils le donneront à l'Antichrist. C'est pas compliqué. Ça s'est toujours passé. C'est pour ça que ces choses doivent nous faire réfléchir. C'est vrai qu'il y a un combat. C'est vrai, mais quand même, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pas à la conversion, bien sûr, mais maintenant, est-ce que nous avons soif du Saint-Esprit? Pendant que Lucas faisait chanter, il a pris un cantique. Il a parlé de la. Vous vous rappelez de qui il a parlé? Il a parlé d'une femme dans l'Évangile. Tiens, de qui il a parlé? Tu t'en rappelles, Willy ou Lucas? Vous vous rappelez? Ah, vous écoutez pas. Il a parlé de la Samaritaine. Vous vous rappelez quand Jésus il voit une femme qui a été mariée 5 fois. C'est une femme qui a eu une vie difficile. Elle vit avec le 6e. Elle est là, elle se cache. Il y a des souffrances dans la vie. Il y a des moments terribles. Peut-être que vous faites partie de cette catégorie. Mais le Seigneur, il vient vers nous. Que son nom soit béni. Le Seigneur n'a pas rejeté cette femme. Lui, il a été vers... Je ne sais pas si vous vous rendez compte là, comment Dieu veut nous rafraîchir à tous. Et il va vers cette femme. Cette femme, elle est choquée. Un homme qui vient parler avec elle. En plus, c'est un juif. Elle, c'est samaritaine. Les juifs n'ont pas de relation. En fait, vous connaissez l'histoire. Et puis, Jésus lui parle de la source d'eau vive. Et il lui dit, mais si tu connaissais... Écoutez bien. Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Et il t'aurait lui-même donné à boire. Est-ce que ça vaut pas la peine que nous nous posions sérieusement la question? Mais mon frère, ma sœur, est-ce que tu connais celui qui te dit « je peux te désaltérer » ? Vous vous rappelez, c'est Jean-Baptiste qui dit aux pharisiens, des pasteurs, « il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas ». Moi, c'est ces versets que ça me travaille. Si tu connaissais, écoutez-moi frère et sœur, si tu connaissais celui qui te dit « je peux te donner à boire », tu lui demanderais. Vous entendez? Alors, on n'est pas là pour au contraire. On voit Dieu qui va vers une femme qui a bousillé sa vie. Je ne sais pas dans quel état vous êtes, mais qu'importe. Est-ce que vous croyez cette parole? Il vous conduira dans toute la vérité, le Saint-Esprit, si tu connaissais le don de Dieu. Si tu connaissais celui qui te dit, est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous croyez que Jésus a le pouvoir de vous donner de l'eau vive? Il le dit, il t'aurait donné, c'est un don. C'est pas du chantage. Ah, toi, tu as été sérieux. Toi, t'as pas divorcé. Alors, toi, tu es... Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Jésus va vers une femme, elle a été mariée 5 fois. Elle vit en concubinage. Pourquoi Jésus va vers elle? Il va vers cette femme pour la guérir, pour la bénir, pour la sauver, pour la désaltérer. Tu lui aurais demandé et il t'aurait donné. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive de son sein, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Il disait cela de ceux qui devaient recevoir l'Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit est un baptême de la présence de Jésus-Christ, de la présence de Dieu. Il attend le Seigneur. Il attend de voir si vous avez soif.
Cette femme aurait pu claquer les talons et dire « Non, mais qu'est-ce que c'est ce juif qui vient là tourner autour de moi ?» Elle devait avoir l'habitude.
Elle est restée. Quand on est quand même conscient que l'on peut être dans la présence de Jésus, moi, il me semble que ça vaut la peine de s'y intéresser. Non ? Il parle avec elle. Il parle avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il veut parler avec toi. Si tu connaissais celui qui te parle, toi-même, tu lui demanderais. On a entendu plusieurs fois, mais demandez ce matin, plusieurs fois dans la louange, dans les dons même. Demandez et vous recevrez. Vous savez, matériellement, physiquement, on peut forcer quelqu'un à boire. Dans les maisons de retraite, on force les personnes âgées à boire, on les oblige à boire. Mais spirituellement, on ne peut forcer personne à boire. Je peux prêcher jusqu'à 5 heures de l'après-midi, ça ne vous obligera pas à avoir soif, ça c'est sûr. Mais si quelqu'un a soif, si quelqu'un réalise qu'il y a des fleuves d'eau vive, là, dans la présence de Dieu, si vous n'y croyez pas, si vous ne la voyez pas, si vous ne buvez pas, si vous ne buvez pas, c'est quoi ? C'est que vous n'avez pas soif. Est-ce que vous acceptez cette affaire ou est-ce que vous dites « Mais non, monsieur Gaumont, j'ai pas le temps de m'immerger, j'ai pas le temps. » Eh bien, écoutez, c'est entre vous et Dieu. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Si vous ne buvez pas, c'est que vous n'avez pas soif. C'est pas compliqué. Si tu connaissais, si nous ne demandons pas, c'est que nous n'avons pas soif ou nous ne connaissons pas. Je pense qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas cette grâce. Ils croient en Dieu, ils ont pris le baptême, ils espèrent que ce qui est écrit, c'est peut-être vrai. Il y a des gens, ils sont dans une espérance super mondaine, ce qui sert à rien en vérité. Si tu connaissais toutes les possibilités que Dieu a, tu te jetterais à ses pieds. C'est ce que Jésus dit à cette femme. Est-ce que nous réalisons ce que Dieu peut nous donner ? Est-ce que nous réalisons ce que Dieu a préparé ? Parce qu'en plus, il a préparé ces choses. Les œuvres, elles sont préparées à l'avance. Toutes. Ce temps de rafraîchissement, c'est pour ça que Jésus est mort. Quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé quand on lui a percé le côté ? Qu'est-ce qui est sorti de son côté ? Du sang et de l'eau. Ça prouve, réellement, c'est facile à comprendre, qu'il y a un fleuve qui sort de Jésus-Christ. Il y a de l'eau vive qui sort du Seigneur Jésus-Christ. C'est une image extraordinaire, mes frères et sœurs. Nous devrions être sérieux, il y a trop de chrétiens qui sont légers. Ils se sont occupés du salut à la va-vite, on le voit, ça tient presque pas. Ou alors ils sont sauvés, mais enfin, bon, ils ne savent pas trop. Et pourtant, il y a de la légèreté. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'être légers. Nous ne pouvons pas. Si quelqu'un a soif, il parle du Saint-Esprit, de la réception du Saint-Esprit. Personne ne reçoit sans savoir. Il faut savoir ces choses. Vous avez vu les disciples d'Éphèse ? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Et ils se sont regardés, ils ont dit, mais on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il faut le savoir qu'il y a un Saint-Esprit. Il faut avoir soif et il faut demander. Il faut demander. Demandez et vous recevrez. Car quel est le père qui ne donnera pas du pain à son enfant s'il le lui demande ? Méchant comme vous l'êtes, il dit en plus, bon, il nous met au parfum. Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Mais le problème, peut-être que le problème, c'est que Dieu nous teste pour voir si on a vraiment soif. Ça, c'est peut-être la clé. S'approcher à toute vitesse, faire des cultes à toute vitesse. Je ne sais pas, moi je ne suis pas là pour vous accabler. Je suis là pour vous dire qu'il y a un fleuve duquel Dieu veut que vous vous approchiez. Il y a un fleuve de bénédiction, même dans ces temps difficiles, ou même si vous êtes dans le désert, même si vous avez une vie perturbée, comme cette pauvre femme qui avait eu ses maris. Il y avait un monsieur qui est venu une fois, je vous l'avais raconté. Un monsieur qui était venu ici un matin, il avait été bouleversé par la parole, il avait été bouleversé. L'après-midi, il vient me trouver, il me dit, monsieur Go, est-ce que je peux vous parler? J'ai quelque chose à vous demander. Il était là, il était un gars qui avait presque 60 ans, il me parle, ça, il était mal, il était mal à l'aise et tout. Il me dit, voilà ce qui se passe, j'ai eu 5 femmes. Je suis divorcé, j'ai 13 enfants, dans 5 pays différents. Tout mon argent, je le donne, c'est un directeur d'hôtel, tout mon argent, je le donne pour mes pensions alimentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, j'ai dit, mais vous me faites penser à quelqu'un dans la ville. Mais c'est une femme. Et il me dit, mais Dieu, est-ce que Dieu peut me pardonner? Et je lui dis, mais oui. Et il m'est tombé dans mes bras, il pleurait. Il m'a dit, qu'est-ce que vous feriez? Moi, j'écrirai à toutes ces femmes, je leur demanderai pardon. Je crierai à tous mes enfants, je leur demanderai pardon. Et je donnerai mon cœur au Seigneur. Et il l'a fait. Et aujourd'hui, il est sauvé dans une église. Il est resté tout seul, il veut marcher avec le Seigneur. Il y a des fleuves d'eau vive pour tout le monde. C'est pas beau ce témoignage? Je vous assure. Hein. Il vient une fois de temps en temps dans l'assemblée parce qu'il maintenant il a la retraite en Espagne. Dieu peut satisfaire votre âme. Dieu peut restaurer votre âme. Si l'Éternel est votre berger, il restaurera votre âme. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Lorsque vous avez cru, alors il y a un verset, on va peut-être conclure avec cette pensée dans Jean au chapitre 14. Écoutez bien. Regardez bien ce verset, parce que là quand même c'est une condition. Il y a la connaissance, il y a la soif, il y a le fait de demander, mais après il y a un côté négatif. Il y a un côté négatif, Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Regardez bien. C'est un verset qu'il faudra méditer, surtout le verset 17. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, si vous n'avez pas soif, si tout ça, ça ne vous intéresse pas trop en vérité, eh bien, réfléchissez à ce texte. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, regardez bien, l'esprit de vérité, qu'est-ce qui est écrit après? Que le monde ne peut recevoir. Donc, si vous êtes mondain, il faut réfléchir à ça. Si vous aimez le monde, si le monde est plus important que Dieu, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Si nous sommes mondains, je me mets avec vous, si nous sommes mondains, il faut régler cette affaire. Parce que recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Regardez ce que Jésus a dit, juste au verset après. Quelqu'un dit, dans le chant là, que la chorale a chanté, c'est dit différemment pour que ça colle avec la rime, hein, mais il dit, ils ont chanté, je ne vous laisserai pas seul. Et Jésus dit en vérité, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous ne trouvez pas que le Seigneur, il est bon? Mes frères et sœurs, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, quelqu'un d'orphelin, je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, un homme qui ne se soucie pas, on voit bien quand même que Dieu ne veut pas que nous soyons orphelins. Il y a des chrétiens, ils sont tout le temps dans la misère parce qu'ils sont orphelins. Un enfant orphelin est un enfant qui souffre. Mes frères et sœurs, vous pourrez toute votre vie et toute votre éternité avoir Dieu pour Père. S'il n'y a pas cette soif du Saint-Esprit, soyons honnêtes, soyons simples, c'est qu'il y a quelque chose qui nous détourne de Dieu, comme on l'a vu dans Jérémie. Mais d'où ça vient? D'où ça viendrait? Que je n'ai pas soif de ce que Dieu veut me donner. D'où ça vient? Sérieusement, alors que Dieu dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. D'où vient-il que je me contente de si peu? Sans lui, nous sommes orphelins. Et Dieu dit, non, je ne vous laisserai pas orphelins, que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas si vous réalisez la délicatesse du Seigneur. Tout le monde va l'abandonner, on va le renier, on va le vendre. Et lui, il dit, non, je ne vous laisserai pas orphelins. Que son nom soit béni, frères et sœurs. Avez-vous reçu le Saint-Esprit, mes frères et sœurs? Qui montrera, maintenant je termine, parce que peut-être on pourrait prier pour celui qui dit, bon mais ça suffit, j'en ai marre de oui j'ai soif, je chante, je peux chanter, on peut chanter un cantique, je veux que ma vie soit remplie. Il est beau ce cantique, hein? On le chante de temps en temps. Je veux que ma vie soit remplie. On peut le chanter. Mais Dieu va le vérifier. Dieu va le vérifier peut-être ce soir. Il va créer des conditions, parce que si, aussitôt rentré à la maison, écoutez bien, je suis assoiffé des choses du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que c'est pas vrai. Parce que Dieu, vous savez, j'ai remarqué que Dieu nous éprouve. Vous l'aviez remarqué? Ou vous ne l'avez pas encore remarqué? Si vous ne l'avez pas encore remarqué, ça viendra de toute façon. Une chose est sûre, Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Mais beaucoup de chrétiens aiment le monde. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, vivre dans ces fleuves d'eau vive, il va falloir que nous nous séparions de certaines choses. Je ne dis pas de la détente saine, mais il y a des choses, si ça nous empêche de nous plonger dans la sainte rivière, eh bien c'est que ça, c'est des choses qui deviennent mauvaises, mes frères et sœurs. Dieu veut nous remplir. Vous vous rappelez les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, hein, quand ils étaient malheureux, ils étaient tristes, désespérés, etc. Puis Jésus les rejoint, bien sûr, ils ne le reconnaissent pas. Et après, ils vont expliquer ce qui s'était passé en chemin. Vous vous rappelez cette histoire? Ils vont le dire. Notre cœur ne brûlait-il pas un chemin lorsque il nous expliquait les Écritures? Il s'était passé un truc. Vous savez, quand on reste un temps certain, prolongé dans la présence de Dieu, au bout d'un moment, ça commence par réchauffer le cœur. Vous l'avez expérimenté, ça? Si vous priez 5 minutes, c'est sûr que vous ne l'avez pas encore expérimenté. Mais si vous avez pris cette merveilleuse habitude de vous retrouver longtemps dans la présence de Dieu, vous allez à un moment donné dire « Stop, Seigneur, reste avec moi. Il faut que ça dure un peu plus, il faut que je me rafraîchisse. Il faut que tu me restaures. » Et ils le reconnurent. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont eu? Eh bien, ils ont eu des forces pour retourner à Jérusalem parce qu'ils fuyaient. Ils avaient fait 11 kilomètres pour rien. Ils en ont fait 22 pour quelque chose. En tous les cas, ils sont revenus à Jérusalem et Dieu les a bénis. Parce que Dieu n'abandonne pas les gens qui ont soif quand même. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous répondions au Seigneur. Est-ce que votre soif de Dieu est vraie? Est-ce que cette soif est vraie? Ou est-ce que c'est superficiel? Vous seriez d'accord qu'on demande au Seigneur de l'aide? Vous trouvez qu'il a bien fait, Jésus, d'aller vers la Samaritaine? Sainte-Marie, quand même, Sainte-Marie. Vous auriez été vers elle, vous? Est-ce qu'on peut se fermer les yeux? Moi, je crois vraiment que si le Seigneur nous parle de fleuve d'eau vive, c'est qu'il veut nous y amener. Je ne crois pas, franchement, connaissant Dieu, le peu que je connais du Seigneur, je ne vois pas comment le Seigneur nous parlerait de fleuve d'eau vive juste pour nous faire rêver. Si le Seigneur nous parle d'eau vive, à moins que je me sois trompé. Mais si je ne me suis pas trompé dans la pensée de Dieu, j'en déduis que Dieu te parle des fleuves d'eau vive pour que tu y ailles, pour que tu t'y retrouves. Pour que tu puisses dire comme David, tu me rafraîchis. Oui, je suis dans le désert, ça ne me plaît pas, mais j'ai soif de toi, Seigneur. Et croyez-moi, il y a des gens dans le désert, ils en voient tout balader, c'est ça, eh bien je m'en vais. David, lui, dans le désert, il disait, j'ai soif de Dieu, pas de bénédiction. Bien sûr que Dieu guérit, et bien sûr que Dieu sauve, et bien sûr que Dieu vous donnera un travail si vous en avez besoin. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler de rafraîchissement spirituel. On va demander au Seigneur sa grâce. Mes frères et sœurs, on ne prie pas parce qu'il faut terminer le culte avec une prière, ça fait bien, ça fait qu'ils sont spirituels dans cette église, on est compte, ils terminent par une prière. Non, tout ça, ça ne sert à rien. Mes frères et sœurs, est-ce que dans votre cœur, vous pouvez lui parler, dans votre cœur, et répondre à cette prédication? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Pas il y a 30 ans, là, est-ce que tu as renouvelé la vie de l'Esprit? Mes frères et sœurs, demandez et vous recevrez. Faisons-le, s'il vous plaît, consciencieusement et simplement. Notre Père, nous te remercions de nous avoir, avec autant de sollicitude, dit toutes ces choses, à savoir que tu ne nous laisserais pas orphelins. Seigneur, tu fonds du cœur, merci. Nous ne serons jamais seuls. Que tu es bon, Seigneur. Que tu es bon d'aller vers des gens abandonnés, malheureux comme cette femme divorcée 5 fois, Mon Dieu, que tu es bon, Seigneur. Nous voulons connaître celui qui nous dit, qui nous donnera à boire. Et nous voulons demander cette eau vive. Seigneur, je te prie pour tous les chrétiens qui se sont privés de cette eau vive. Je te prie pour tous les chrétiens qui aiment le monde, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas là pour nous culpabiliser bêtement. Nous voulons te demander de nous délivrer du monde. Tu vois dans ce local, dans cette église, tous ceux qui aiment le monde, Seigneur, et qui ne pourront pas, délivre-les, Seigneur. Délivre-nous. Délivre-nous de tout ce qui pourrait faire obstacle à la réception du Saint-Esprit. Oui, merci de ne pas nous avoir laissés orphelins. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Et aide-nous à ne jamais, Seigneur, abandonner cette source d'eau vive pour nous crevasser, pour nous creuser idiotement des citernes qui ne retiendront pas l'eau. Pardon, Seigneur, pardon. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.